Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon lundi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de toute cette semaine et bien sûr de ces 30 prochaines minutes à la barre de C'est bon pour la santé sur Canal M. Le 26 novembre dernier, 17 h, mon téléphone sonne. C'est une amie. Elle me dit « Marianne, j'ai des billets pour aller voir le show du Refuge. J'ai pensé à toi tout de suite. » Je suis sûre que ça va t'intéresser. Et évidemment, je l'étais intéressée. J'étais curieuse parce que c'était la 24e édition. Je n'y étais jamais allée. Et aussi, petite confidence, Rock Voisine était là cette année-là. Le 26 novembre dernier, j'avais bien envie de l'entendre en performance. Et j'ai été touchée énormément par la performance des artistes, par leur générosité, par la mission à laquelle on est sensibilisé, la mission du Refuge, hein, tout au long du spectacle, menée de main de maître par le porte-parole Dan Bigrand, et aussi par le mot d'ouverture donné par la cofondatrice et directrice générale du Refuge, France Labelle, qui dressait dès le début un portrait très, très humain, très lucide de ces jeunes hommes qui vivent dans la rue. J'ai eu envie de l'inviter, France Labelle, suite au spectacle du Refuge. Et elle nous dressera un portrait de la santé de ces hommes qui vivent dans la rue en deuxième partie d'émission. Mais pour le moment, on estime qu'en Amérique du Nord, il y a 20 à 40 % des femmes qui ont déjà eu au moins une infection urinaire. Donc, assez courant et douloureux aussi. Comment on peut s'en débarrasser quand c'est récidivant? J'en parle avec le Dr Marc Steben, lui directeur médical de la Clinique A. Docteur Steben, bonjour.
Oui, bonjour.
Contente de vous retrouver.
Et moi de même.
Vous savez, je lisais sur les cystites qu'on appelle plus souvent infections urinaires et j'apprenais qu'on les appelait autrefois la maladie de la jeune mariée. Est-ce que vous saviez ça, vous?
Ben oui, les Anglais appelaient ça des honeymoon cystitis, donc des filles qui n'avaient jamais eu de relations sexuelles. Tout d'un coup, avaient plusieurs relations sexuelles et revenaient de mariage, de lune de miel avec des petites complications d'infection urinaire.
Donc, c'est lié aux relations sexuelles?
C'est relié pour certaines femmes aux relations sexuelles. C'est pas exclusivement relié aux relations sexuelles, mais pour certaines, c'est une petite complication très désagréable.
Mm-hmm. C'est quoi, en fait, une infection urinaire? Là, on sait que ça se situe dans le bas-ventre, c'est douloureux. Est-ce que c'est une inflammation?
Oui, c'est une inflammation qui est causée par une bactérie. On sait que les femmes ont un urètre plus petit, donc le tuyau entre la vessie et l'extérieur est beaucoup plus court que chez les hommes. Et surtout, lors des relations sexuelles, le pénis trouve à repousser les bactéries à rebours dans la vessie et qui peut prédisposer. Mais ce n'est pas la seule raison d'avoir des infections urinaires.
C'est quoi les autres causes?
Les autres causes, bien, c'est sûr, pour des personnes plus âgées ou pour des personnes qui sont opérées, le fait d'avoir un cathéter urinaire. Il y a aussi probablement des personnes qui sont plus à risque. On sait que certaines personnes avec des groupes sanguins particuliers ont des prédispositions, étant donné que leurs cellules seraient plus collantes dans la vessie. Mais pour la majorité des personnes, on ne connaît pas vraiment de raison particulière. Donc, on se trouve une raison. Oui. J'ai attendu pour aller uriner. Il faisait froid. J'ai pris froid aux pieds, tout ça. Qui ne sont pas nécessairement... Je pense que c'est des coïncidences et non pas la cause.
Ce serait plutôt des mythes.
Exactement.
Oui, oui. On dit souvent que c'est important d'aller uriner après une relation sexuelle. Est-ce que ça peut aider à prévenir?
Oui, pour certaines femmes, entre autres, les femmes qui sont sujettes à en avoir particulièrement aux relations sexuelles. Donc, c'est une des bonnes façons de pouvoir prévenir et réduire les risques là, d'avoir des infections urinaires.
Est-ce que c'est toujours douloureux, une infection urinaire?
Non. L'infection urinaire, c'est sûr, le cas typique classique, c'est la madame qui a envie d'uriner, elle ne peut pas se retenir, elle va aux toilettes 20 fois par jour, elle a à peine fini d'uriner, elle est à peine relevée qu'elle a déjà envie d'uriner, elle ne peut pas attendre. Et en plus de ça, des fois, on peut voir du sang, pas nécessairement, dans les urines. Et la nuit aussi va faire que les femmes vont se lever peut-être 4-5 fois pendant la nuit pour aller uriner. Ça, c'est une infection urinaire simple. Par contre, chez certaines femmes, les bactéries peuvent remonter entre le tuyau qui est entre la vessie et les reins, les uretères, à ne pas confondre avec l'urètre. Les uretères, lorsque ça remonte dans les uretères, ça atteint les reins, à ce moment-là, la femme peut faire une pyélonéphrite comme complication. Et là, il y aura de la température, des frissons, de la fièvre. Donc, on peut voir des personnes qui vont se ramasser avec des 39-40 degrés de température, grelotter, claquer des dents et des douleurs abdominales au flanc, dont l'impression d'avoir mangé un bon coup dans le côté sur le flanc. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la forme compliquée.
Est-ce que la forme, juste pour être certaine, Dr. Steven, est-ce que la forme compliquée est une complication d'une cystite qui n'a pas été guérie à temps?
Oui, puis il y a peut-être des femmes aussi que l'infection arrive par le sang, contamine le rein et ça descend dans la vessie. Mais la majorité, on pense que c'est des infections de vessie qui très rapidement vont se compliquer d'une infection qui va remonter vers les reins et donner là, la température. La majorité du temps, les infections de vessie saines peuvent donner beaucoup de douleurs, mais pas nécessairement de fièvre.
Donc, c'est important de se faire, quand on reconnaît les symptômes, de se faire traiter assez rapidement.
Surtout quand c'est la première fois. C'est sûr que lorsqu'une femme en a eu plusieurs fois, il y a des protocoles, on a des recommandations, on pourra y revenir plus rapidement, un petit peu plus tard. Mais c'est sûr que la majorité des personnes qui ont des infections urinaires vont vouloir les faire traiter rapidement parce que c'est très désagréable. On est au travail, on doit se lever pour aller aux toilettes, on a des difficultés à rester en métro ou en auto pour se rendre au travail tellement que les envies d'uriner vont être très désagréables.
Et là, depuis tantôt, je vous entends dire les femmes, donc on peut le dire, c'est beaucoup plus les femmes qui sont touchées par les cystites.
Oui, c'est assez exceptionnel pour les hommes d'avoir des infections urinaires. Lorsque les hommes ont des symptômes semblables, on pense plus à une infection de prostate ou une maladie transmissible sexuellement qui atteint l'urètre chez les hommes. Par contre, chez les jeunes garçons, on parle surtout des bébés, là, comme de 0 à 2 ans, c'est sûr qu'il peut y avoir des infections urinaires, mais qui viennent surtout comme complication de petites malformations congénitales au niveau du pénis ou de la vessie.
Donc, les enfants ne sont pas épargnés?
Pas du tout, absolument pas. Chez les enfants, c'est d'autres choses. On pense souvent à des petites malformations congénitales qu'on appelle des valves urétrales ou le reflux urétéral. Donc, lorsqu'on vide notre vessie, il y a comme des petites valves qui empêchent que l'urine retourne vers les reins par l'urètre et plutôt va sortir par l'urètre vers l'extérieur. Et chez certains enfants, ces valves-là ne fonctionnent pas comme il faut et donc on aura de l'urine qui remontera à rebours et on a de la difficulté à vider les urines de la vessie et ça peut prédisposer à avoir des infections urinaires chez les enfants.
OK. Est-ce qu'il y a des façons, on en a déjà parlé, on a glissé déjà quelques pistes, de prévenir les infections urinaires?
C'est sûr, quand quelqu'un en a plusieurs, je pense que la première chose, c'est de les faire confirmer. On est surpris à la clinique, on a un protocole qui fait que les femmes qui appellent avant 2 heures vont être vues la même journée. On est surpris, il y a presque la moitié des femmes qui pensent avoir une infection urinaire qui n'en ont pas et recevraient des antibiotiques avec les complications qu'on connaît, des diarrhées, des vaginites, des nausées. Donc, c'est important de prendre le temps de les faire confirmer, surtout quand c'est quelque chose de nouveau, quand c'est quelque chose qui s'accompagne de fièvre, d'atteindre l'état général ou de frissons. Donc, on va vouloir faire une analyse et une culture. Et c'est sûr que le petit bâtonnet qu'on fait en clinique pour une première infection, ça peut être suffisant. Mais lorsque c'est quelque chose qui revient, il faut prendre le temps de bien identifier est-ce que c'est accompagné d'une bactérie ou pas. Mm-hmm. Et lorsqu'on n'est pas capable de trouver de bactéries, mais qu'il y a des symptômes urinaires, on voudra faire, dans certains cas, des tests pour les infections transmissibles sexuellement. On sait que la chlamydia ou la gonorrhée peuvent donner des symptômes qui passent pour une infection urinaire. Et dans certains cas, on voudra faire des examens complémentaires comme une échographie au niveau des reins et même des fois un examen où on entrera une caméra vers la vessie qu'on appelle une cystoscopie.
On peut mélanger, vous parliez que des fois on peut mélanger entre deux choses. On peut mélanger avec quoi la cystite et autre chose?
Le plus souvent, c'est les infections vaginales. Okay. De façon surprenante, lorsqu'on a regardé aux États-Unis dans une clinique d'urgence, les femmes qui se présentaient pour des douleurs urinaires, on s'est aperçu que l'infection bactérienne de la vessie était probablement la troisième raison, et la première était la vaginite. La deuxième était des réactions de type allergique ou eczémateuse au niveau des organes génitaux. Et l'infection bactérienne était la troisième cause. Et comme vous pouvez vous imaginer, on ne traite pas une vaginite ou une irritation de la vulve de la même façon. Même souvent, les antibiotiques vont aggraver les deux raisons préalables.
Mais en réalité, le jus de canneberge aide à prévenir?
Dans les études contrôlées, c'est-à-dire qu'on a pris des femmes, on leur a donné du jus de canneberge ou quelque chose qui ressemblait à du jus de canneberge, on n'a pas vu de différence, que ce soit pour les infections aiguës ou les infections récidivantes. C'est sûr que bien s'hydrater peut aider à faire passer une infection urinaire. On le sait que c'est pas toutes les femmes qui avaient une infection urinaire dans le temps de nos ancêtres qui mouraient. Il n'y avait pas d'antibiotiques. On sait que ces infections-là pouvaient durer quelques jours, quelques semaines, finir par disparaître. Mais il y avait des gens quand même qui en décédaient par infection au niveau des reins. Donc, on peut boire beaucoup lorsqu'on commence à avoir des symptômes, mais lorsqu'on a de la difficulté à dormir, lorsqu'on est obligé d'aller à répétition uriner, souvent on peut avoir besoin d'antibiotiques ou d'antiseptiques. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs choix. Et c'est clair que la majorité des femmes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas d'anomalie des organes génitaux ou de la vessie, on va traiter avec un minimum d'antibiotiques. Et entre autres, il y a maintenant des médicaments comme Monurol, qui sont des antiseptiques urinaires qu'on n'utilise que pour les infections urinaires simples, qui se donnent en un seul traitement, qui est beaucoup moins compliqué, beaucoup moins de complications que les antibiotiques qu'on donnait auparavant. Il y a des antiseptiques urinaires ou des antibiotiques pour 3 jours. Et lorsque il y a des signes d'infection au niveau des reins avec de la fièvre, la température, c'est sûr, là, on va donner 7 ou 10 jours d'antibiotiques.
Docteur Marc Stében, est-ce que ça peut être lié à l'hygiène également? Là, je lisais qu'il faut favoriser peut-être les douches au bain, mais c'est peut-être pas nécessairement lié à l'hygiène plus qu'à une irritation.
Il y a beaucoup de folklore au niveau des infections urinaires. Il y a toute la question de s'essuyer après une selle, de l'avant vers l'arrière, etc. La science n'a rien démontré de vrai à l'intérieur de ça. Les choses qu'on connaît, l'instrumentation, donc d'avoir une sonde urinaire après un accouchement ou pendant une opération, d'avoir des relations sexuelles, semble augmenter. Mais en dehors de ça, c'est un mystère. Qu'est-ce qui fait que certaines femmes ont autant de difficultés?
Ah, ben merci de défaire notre folklore lié aux infections urinaires. Maintenant, si... Bon, on vit ça là, de façon récidivante, les infections urinaires. Il faut s'attarder à quoi? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'une fois qu'on en a eu une, c'est évident qu'on en aura d'autres?
Il faut vraiment identifier, est-ce que c'est une infection urinaire? Est-ce que c'est une bactérie normale ou pas? Est-ce qu'elle a de la résistance aux antibiotiques? Une fois qu'on établit que c'est une bactérie et son profil de résistance est tout à fait normal, on a 3 alternatives. Pour les filles qui ont des infections urinaires uniquement aux relations, on leur donne des antiseptiques urinaires tout de suite après les relations sexuelles, on leur demande de s'hydrater. Ça, c'est une des 3 possibilités. La deuxième, chez les filles qui ont effectivement 4 infections urinaires ou plus par année, on peut leur donner un antiseptique urinaire à tous les 2 soirs et les soirs de relations sexuelles. Après 6 mois, on arrête et on regarde qu'est-ce qui se passe. Et on sait qu'il y a peut-être la moitié de ces femmes-là qui vont arrêter d'avoir des infections urinaires. On semble avoir délogé peut-être une flore qui était devenue résidente au niveau de la vessie. Et pour les femmes qui en ont vraiment de façon très épisodique, on peut attendre d'avoir les symptômes, avoir déjà en sa possession une prescription renouvelable d'antibiotiques ou d'antiseptiques urinaires. Et si ça ne marche pas après 48 heures, vraiment se présenter pour avoir une analyse, une culture d'urine pour comprendre est-ce que ma bactérie est devenue résistante ou c'est une bactérie différente. Donc, on a 3 alternatives possibles chez les femmes qui font 4 infections urinaires et plus par année.
Et on ne peut la transmettre à notre partenaire sexuel?
Ça n'a absolument rien à faire avec les maladies transmissibles sexuellement. C'est relié lié chez certaines femmes au fait d'avoir des relations sexuelles. C'est plus le massage des bactéries qui sont à l'entrée de l'urètre chez la femme qui sont repoussées vers la vessie qui est la cause et non pas une maladie que notre partenaire nous donne. Et si on n'est pas traité les deux, ça va recommencer toujours.
Mm-hmm. Et en terminant, on veut voir le médecin de famille, notre gynéco.
Les gynécologues, en général, vont vouloir travailler sur des choses peut-être un peu plus sérieuses. Donc, il y a des places qui ont des protocoles, comme la clinique chez nous. C'est les infirmières, donc les femmes qui appellent avant 2 heures l'après-midi vont être vues la même journée. On va vérifier rapidement avec une bandelette, on va faire la culture et on va vouloir choisir l'antibiotique qui est le plus adéquat avec le rythme de vie de la femme qui se présente.
Oui, parce qu'on ne veut pas vivre longtemps avec ça, une infection urinaire. Comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut vraiment être très, très limitant là, dans le quotidien.
Eh oui.
Docteur Marc Stében, directeur médical de la Clinique A, c'est toujours un plaisir de vous parler. Clinique A.ca, pour aller voguer sur votre site, qui est très bien fait d'ailleurs. Et puis, joyeux temps des fêtes si on n'a pas le temps de se reparler d'ici.
Merci, vous de même et à vos auditeurs et auditrices.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour France Labelle.
Bonjour.
Vous êtes psycho-éducatrice, mais surtout connue comme étant la cofondatrice et directrice générale du Refuge des jeunes de Montréal. Et je disais tout à l'heure en introduction, quand vous n'étiez pas encore là, que moi, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour ce spectacle que j'ai vu pour la première fois. Donc, le 26 novembre dernier, la 24e édition du show du Refuge, menée de main de maître par votre porte-parole, Dan Bigras. Et c'est là que je vous ai entendu parler pour la première fois. Vous avez dressé un formidable portrait, très lucide de ces jeunes-là qui vivent dans la rue. Et on avait envie aujourd'hui de se donner l'opportunité de parler également de leur santé.
Oui.
Ils viennent de la rue, bien sûr, ces jeunes-là, mais ils viennent également d'une famille.
Oui.
Ils ont un passé. Quel est leur profil? D'abord, je veux aussi mentionner que vous recevez à peu près 600 jeunes hommes chaque année. Ça fait 25 ans que vous existez. Ça fait à peu près 15 000 jeunes hommes, ça, en tout. 18 600 quelques, pour être plus précis.
633, je crois. Oui.
Et ils ont entre 17 et 24 ans. Quel est leur profil en général?
Oui, ils ont entre 17 et 25 ans parce que depuis 2 ans, on accueille aussi les jeunes de 25 ans puisque les grands refuges affichaient complet. Alors, on a donc extensionné l'âge. Écoutez, bon, merci pour les bons mots là sur le show. Et ces jeunes aussi, quand vous dites, ces jeunes viennent de la rue. À peu près 20 % des jeunes au moment où on les rencontre viennent, bon, étaient dans la rue. D'autres sont non domiciliés, mais peuvent arriver des centres jeunesse, d'une mm-hmm. maison d'hébergement, de chez de la famille, en colocation. Donc, au moment où on les voit, c'est un moment de rupture ou de crise. Ces jeunes-là, de jeunes hommes, donc peuvent venir de partout, Montréal, des régions, d'autres provinces mm-hmm. et de plus en plus d'autres pays aussi, parce que maintenant, on a des jeunes qui sont issus de l'immigration.
Quelles sont leurs problématiques de santé, celles que vous découvrez le plus souvent?
Les problématiques de santé, celles qui se laissent voir en premier sont d'ordre physique. Donc, ce sont des jeunes qui souffrent, bon, par exemple, de problèmes pulmonaires. On voit beaucoup, là, c'est l'hiver aussi qui commence. Ouais. Alors, nos jeunes tous, on a des jeunes qui ont des bronchites, des pneumonies, des jeunes aussi qui, au moment où les grands froids commencent, évidemment, on voit des engelures, tout ça. On voit beaucoup de jeunes qui ont des problèmes aux pieds parce qu'ils se déplacent sur de grandes distances. Il y en a qui marchent beaucoup, beaucoup dans une journée, mal chaussés, souvent mal habillés, tout ça. On a des problèmes, des jeunes qui ont des problématiques qui vont apparaître en cours de séjour. Des jeunes, par exemple, qui sont atteints d'hépatite B, hépatite C, en lien avec des modes de consommation. On a des jeunes qui, malheureusement, sont atteints du VIH. Ils sont séropositifs. Alors donc, ça, c'est parfois aussi en cours de séjour qu'on aura l'information. Et puis, il y a toute la question de la détresse psychologique. Mmh. Entre 30 et 40 % là, au fil des années de nos jeunes présentent une détresse psychologique élevée qui va emprunter là, différentes voies. On peut parler de dépression, on peut parler de problématiques en lien avec des psychoses, la schizophrénie ou des choses comme ça. Règle générale, comme ils sont jeunes, ils sont une minorité à avoir reçu un diagnostic. Parfois, c'est pas le bon.
Ouais.
Puis recevoir un diagnostic, est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est non, c'est un choc. Ça peut être le début de quelque chose, mais disons que c'est toujours un choc qui se rajoute à une situation assez précaire.
Il y a des infirmières, je pense, au sein du refuge.
En fait, on est très très privilégiés. On compte sur la collaboration d'un infirmier et un petit peu plus d'une infirmière, mais là, elle vient de partir pour son congé de maternité. Alors donc, c'est des infirmiers qui sont attachés à l'équipe Itinérance, qui est le C3S Jeanne-Mance dans le centre-ville de Montréal. Alors, c'est une équipe multidisciplinaire qui compte des infirmiers et infirmières qui viennent sur le terrain, dans les organismes, pour rencontrer les jeunes. Parce que, bon, c'est certain que les jeunes ne se précipitent pas là chez le médecin ou, oui. Ou chez le psychiatre pour recevoir des soins. Là. Alors, donc, il faut vraiment les rencontrer, développer un lien minimal, leur proposer des choses, souvent les accompagner aussi. Surtout lorsqu'il s'agit de problèmes de santé mentale qui... Ça fait peur, hein? Ça fait peur à tout le monde. Vous et moi, s'il advenait qu'on sente que quelque chose tourne pas rond, puis qu'on vive une angoisse, ben ça serait aussi angoissant d'aller voir un médecin puis un psychiatre.
Oui, puis aussi, je pense à toutes ces barrières institutionnelles, c'est-à-dire les médecins souvent travaillent le jour, dans des cliniques parfois où l'on doit payer, pas toujours
Absolument.
Nécessairement. Ça prend une carte soleil
oui.
Qu'on n'a peut-être pas quand on vit dans la rue. Donc, il y a vraiment des barrières.
Il y a des barrières. Souvent, on parle souvent de notre système de santé qui est en crise, qui est débordé, on manque de ressources, mais trop souvent, c'est encore vrai. Les personnes en situation d'itinérance, notamment les jeunes, sont très mal reçues aussi dans
Bien
un
oui.
système qui est déjà débordé, qui en a déjà plein les bras avec des intervenants qui savent plus où donner de la tête, là, puis nos infirmières qui doivent faire des chiffres doubles. Alors, tu t'arrives à l'urgence en psychiatrie, t'es un jeune sans domicile fixe, en proie à un délire, peut-être intoxiqué, bien, il est pas rare qu'ils ressortent dans la même soirée. Mm-hmm. Pour revenir où? Pour revenir au refuge. Et donc, ça renforce la problématique,
tout
ça renforce le sentiment d'exclusion aussi. Et ceci sans critiquer le fait que les gens qui sont dans des systèmes qui fonctionnent, c'est pas les intervenants dans les systèmes qui fonctionnent pas bien en général, c'est nos systèmes d'accueil, de santé et d'urgence qui peuvent être déficients puis manquer de ressources.
Et ces jeunes-là, ils font comment pour se procurer les médicaments nécessaires?
Là, ça dépend. En supposant qu'on a un jeune qui a un problème de santé physique ou mental, qu'il soit au refuge, alors nous, dans le cadre de nos services de jour, on le rencontre, on essaie d'évaluer ses besoins, on discute avec lui. Et là, donc, on va l'arrimer avec un de nos partenaires de l'équipe jeune de la rue, que ce soit l'infirmière. On essaie de soit l'accompagner ou de lui obtenir un rendez-vous pour aller rencontrer le médecin ou quelqu'un de l'équipe traitante. Mm-hmm. Qui, dans certains cas, vont pouvoir prescrire ou donner des médicaments si possible. Dans d'autres cas, mais c'est le refuge qui va payer la médication. Mm-hmm. Parce que c'est. Puis surtout quand c'est urgent. Alors, c'est ça, c'est que, donc, au bout de tout cet exercice-là, c'est souvent les organismes communautaires qui vont devoir pallier et assumer
les coûts des médicaments et les autres coûts.
Les coûts de la santé, les coûts de l'urgence. Comme nous, on doit, ça nous coûte plusieurs milliers de dollars par année pour envoyer des jeunes en taxi, à l'hôpital, à la clinique. Un jeune qui n'est pas capable de marcher, qui est blessé. Donc, c'est souvent les organismes communautaires qui, ce qu'on appelle dans notre jargon, la première ligne.
Oui.
On fait l'accueil, le dépistage, l'évaluation, on doit payer les frais, mais souvent, il n'est pas rare que des intervenants au refuge donnent les premiers soins, fassent les bandages, fournissent les sirops et les choses comme ça.
Mm-hmm.
Donc, les gens ne savent pas à quel point la santé. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant que vous en parliez aujourd'hui, de la santé des personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance ou de rue ou laissées à eux-mêmes, comment la santé se détériore.
Oui, France Labelle, le temps file à vive allure, mais je veux quand même prendre le temps très rapidement de glisser un mot sur ce plan de lutte contre l'itinérance qui a été mis de l'avant là, hier par Lucie Charlebois, la ministre déléguée à ce poste. Vous étiez un petit peu déçue, hein?
Bien, c'est-à-dire que c'est un bon plan, c'est un bon énoncé, c'est le fruit de réelles concertations. On reconnaît plein de demandes au niveau de ce plan-là. Cependant, il y a un manque de moyens aussi.
Ouais.
C'est sûr qu'il y a des sommes supplémentaires qui ont été annoncées, mais on le sait, c'est encore insuffisant.
C'est insuffisant et il faudra continuer à le souligner et à suivre, bien sûr, là, parce que c'est un plan sur plusieurs années, à suivre qu'est-ce qui sera fait jusqu'en 2020. Je rappelle aussi que vous avez signé un livre avec Christian Levac, La rue, un chemin tracé d'avance, parcours de 21 jeunes hommes dans la rue, préface de Dan Bigra, que j'ai parcouru avec beaucoup de plaisir, édition Urtubise. France Labelle, c'était une première fois, mais j'espère que ce n'est pas la dernière. Vous êtes une femme formidable qui menait une cause vraiment unique au bout de vos bras. C'est un plaisir. Merci beaucoup.
C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et nous, on se retrouve demain. Bye bye.